Et on se retrouve pour cette deuxième partie, cette fois-ci consacrée aux gros jeux de Square Enix des prochaines années, enfin de l'année prochaine en tout cas, que tout le monde attend évidemment, c'est Final Fantasy XV, qui s'est fait attendre, qui s'est fait désirer pendant près de 10 ans quand même, et maintenant qui a enfin plus ou moins une date de sortie, c'est pour 2016, ça y est, le jeu va sortir pour de vrai. Et récemment, on a eu beaucoup d'informations, notamment à la Gamescom et au TGS, d'Hajime Tabata qui nous a un petit peu rassuré sur la suite du jeu dans des lettres live, dans des ATR. Il a donné pas mal de nouvelles informations tout en disant pas trop en même temps, tout pour laisser un petit peu de mystère planer sur le jeu. On a autour de la table des chroniqueurs qui étaient à la Gamescom, donc ils vont pouvoir nous dire un petit peu ce qu'ils ont vu. Enfin, Chocobo, t'étais là-bas en tant qu'envoyé spécial pour Final Fantasy. Qu'est-ce que t'as pu voir sur FF15?
Ouais, donc j'étais parti à la Gamescom principalement pour faire des interviews. Et on a eu donc le nouveau trailer Down, qui était un trailer axé sur l'histoire, où on voyait une jeune Luna ressemblant à je sais plus quel clip musique d'une chanteuse. Pour la
Chandelier.
référence. Voilà, Sia de Chandelier. Chandelier de Sia, pardon.
Mais carrément.
Qui se faisait taper par un soldat, je crois, puis un loup, et Noctis et son père, avec une scène très émouvante, une musique sublime de Yoko Shimomura, et trois géants qui les regardent, qui se barrent, et voilà. Bon, on se dit, on se réveille, on voit ce trailer, on sait qu'il y a l'Active Time Report le soir même, on se dit, bon. Voilà, ils n'ont pas voulu trop en dire sur le trailer, mais on va s'en avoir plus ce soir. On va avoir un truc de malade et tout. On nous a promis du lourd. C'est le retour de la communication de Final Fantasy XV, le retour en force. Donc, j'arrive devant l'ATR. Donc, je me dis, voilà, c'est le premier ATR que je vois en direct. Ça va être un truc de ouf. Ça va être, voilà quoi. Ça va être inoubliable. Puis, au final, bon, ils ont fait un ATR. Pour ne rien dire, j'ai envie de dire. C'était
Carrément.
clairement. Ouais, mais on sait, mais on n'a pas envie de vous le dire.
Peu décevant
Et
quand même.
c'est très frustrant. C'est très frustrant. Et même le public qui regardait était assez énervé quand ils sont partis. Ça s'est vidé, mais assez rapidement, je trouve. Mais bon, ils ont réussi à tenir quelques mondes avec un lancer de goodies. C'était sympa. D'ailleurs, j'ai failli mourir. Hein. Ils sont sauvages, les Allemands.
Ah, ils ont l'air.
Et bah après cet ATR très décevant, bah c'était le mercredi, il me semble. On a ouais, il me semble que c'était mercredi, ouais.
Tout à fait.
Il y a des
Un
chances.
mercredi soir vers
C'était
18h, ouais.
voilà. Et bah le lendemain, bah Hajime Tabata
C'est
a vu
exclu.
les critiques sur Internet et a eu des interviews qui lui ont fait comprendre que c'est pas la bonne communication qu'ils ont choisie.
C'est un peu le malaise à ce moment-là.
Ouais, un
C'est
gros gros malaise
un peu su allumer.
qu'on a fait entendre en interview avec FF Dream FF World. Donc c'est on a bah vas-y si tu veux hein, Sky Pirate, en dire plus.
Disons également pourquoi la Gamescom était si attendue. C'est parce que Square Enix avait choisi délibérément de zapper le 3 pour FF15 en promettant que les équipes en profiteraient justement pour prévoir du joli contenu et un beau contenu pour la Gamescom qui était annoncé, comme, ils l'ont annoncé tel quel, comme le début de la campagne de communication du jeu. Donc évidemment, après toute la période d'Ouskae dont on avait mangé pendant des mois et on avait mangé 12K, on avait mangé des enquêtes d'opinion sur 12K, donc on n'en pouvait vraiment plus. Donc on espérait vraiment un renouveau et qu'on allait justement voir des éléments inédits. On a eu ce trailer Dawn qui était extrêmement court, avec des choix de mise en scène qui n'étaient pas forcément les bons, c'est-à-dire que le trailer n'est pas mauvais en soi, il est même plutôt intéressant. Néanmoins, passer 1 minute 30 en voyant Regis choyer Noctis et en pleurant, c'était vraiment pas motivant. Surtout après ce qu'on a pu voir à l'E3 2013 avec des trailers hollywoodiens. On voulait en prendre plein les yeux, on a eu quelque chose de beaucoup trop plat. Hein. Et on a eu justement un ATR qui était où justement c'est eux qui choisissent les questions, qui choisissent le programme. Et à mon avis, ils doivent passer pas mal de temps à travailler sur le programme de l'ATR. Et l'essentiel des questions qu'ils choisissaient, c'était justement pour préciser qu'ils ne pouvaient pas y répondre. C'était vraiment du temps perdu, du temps pour rien. Et la seule attraction de la TR, ça a été un passage de gameplay d'une minute trente où on voit Noctis et son groupe dans un environnement inédit qui était un work in progress, affronter un Morbol avec un game over en quelques instants. Donc ça a été extrêmement frustrant. Et les réactions ont été immédiates. Hein. On a tous titré, enfin, toutes les communautés, hein, vous finalement, nous chez Dream ou les autres, on a tous exprimé un mécontentement. Et puis, Jim et Tabata, sa Gamescom, ça a été simplement un rétropédalage, ça a été excuse en pagaille. Il a annoncé plus d'informations qu'il le souhaitait. Et c'est à ce moment-là, justement, qu'il a précisé que FF15 sortirait pour 2016. En tout cas, ça a bousculé leur programme et je pense les deux ATR qu'on a eu ensuite à la PAX et au TGS.
Ouais, ils s'attendaient pas à ce que les gens réagissent comme ça et que les gens attendent autant d'informations, alors que évidemment FF15 c'est quand même le prochain FF que tout le monde attend, donc c'était évident que c'était trop maigre pour une Gamescom.
Après, je sais pas si. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Tabata n'est pas entièrement responsable à 100% de tout ce qu'a fouillage, clairement. Je sais pas si Skypirate a eu le même sentiment que moi, mais quand on a eu une interview, j'ai l'impression qu'il voulait en dire beaucoup plus, mais qu'il est en fait restreint.
Il le dit lui-même, hein, les équipes marketing travaillent de leur côté, décident d'un programme, décident d'un planning. Et Hajime Tabata, c'est le VRP grand public de FF15 qui va donner les informations qu'il a le droit de donner au moment opportun. Et simplement, en tant que producteur, il s'autorise parfois d'aller plus loin quand il sent qu'il y a un problème. Mais le malaise de la Gamescom, ça a été justement la différence de perception du public entre ce que nous, on attendait de l'événement et ce que l'équipe comptait donner. Et justement, je pense que ça leur a permis de comprendre à quel point il y avait un fossé et à quel point c'était dangereux pour le jeu, l'image du jeu. Parce qu'ils avaient mis des gros moyens hein, sur la Gamescom. Au niveau de la Gamescom, c'est vraiment un énorme stand avec des présentations très régulières. C'est des sacs géants distribués, ça a dû coûter une fortune. C'est des posters imprimés,
Des t-shirts.
c'est des t-shirts. Sur le plan marketing, Square Enix avait effectivement misé très gros sur la Gamescom.
Ouais, mais apparemment, ils n'ont pas compris quelque chose, c'est que les gens, enfin les fans attendent quand même depuis 9 ans et c'est un peu remuer le couteau sur la plaie.
Disons, je pense qu'il y a eu un problème de perception par rapport au terme reboot de la communication, où on s'attendait justement à quelque chose de massif, à des révélations en pagaille. Beaucoup imaginaient d'ailleurs que ce serait l'occasion que Square Enix choisirait pour dévoiler la date de sortie. Il y avait un décalage entre ce qu'on attendait et où on était Square Enix dans le développement. Alors que les annonces sont très faibles, on nous montre un environnement qui est un work in progress. Qui est extrêmement frustrant et qui inquiète et qui nous fait demander justement, on se pose la question de savoir où ils en sont vraiment dans le développement, parce qu'à part Douskaé, on n'a pas vu grand-chose et ça a créé des doutes et du fait de l'historique et du passif du projet, les réactions ont été assez acides et Tabata en a pris plein la tronche, tout simplement.
Après, pour la TR, je trouve aussi que c'est. Enfin, en tout cas, de la Gamescom, de ce que j'en ai vu, c'est qu'il y avait des présentations en fait en même temps pendant la Gamescom. Ils ont dévoilé de nouveaux artworks. Mais pas pendant la TR. Et ça, je trouvais ça très étrange. Je trouve que c'est quelque chose à montrer pendant la TR.
Ah, c'est dommage.
Que de le montrer en public comme ça, quoi. Enfin, je trouve que c'est une grosse occasion gâchée.
Ah ouais, carrément, c'est vraiment dommage. Donc pour vous, la terre de la Gamescom, c'est une faute de communication de la part de Square Enix.
Clairement.
Ouais, clairement.
Est-ce que tu as ressenti pareil depuis la France, Monsieur Cloud, sorti de la terre?
Depuis la France, c'est vrai que j'étais assez déçu. Je m'attendais à quelque chose d'assez incroyable personnellement. Je m'attendais à un thriller type E3 2003, quoi. Ils avaient annoncé que la communication allait commencer dès la Gamescom, que le jeu Enfin, que ça, j'ai cru avoir lu quelque part que ça allait être l'une des plus grosses annonces sur FF15. Donc, j'attendais une date de sortie, un thriller, je sais, un gros thriller et tout. Finalement, on a eu quelque chose d'assez classique, enfin, classique, forcément, même très ennuyeux. Personnellement, le trailer qu'on a eu, le trailer d'âme,
Très
était
très court.
très court. Enfin, moi, j'ai trouvé anormalement long. Il était tellement long. Enfin, il y avait, enfin, les plans étaient très lents.
Pas
Surtout le plan où
grand-chose.
il y a Noctis qui dort pendant que son père le tient dans ses bras. Et il est anormalement long. Pour rien, finalement. On voit une larme couler. Oui, c'est graphiquement très impressionnant. Mais la musique est belle, mais il n'y a rien. Concrètement, il n'y avait rien du tout.
Ouais, c'est vrai que c'est long, mais il montre rien finalement, c'est ça qui est
Après, pour revenir dans
dommage.
le trailer, je trouve qu'il. En tout cas, ce trailer nous a pas vraiment rassuré, en tout cas sur le plan de développement, mais après, il m'a un peu rassuré sur le côté histoire et le
Moi
côté
aussi, hein.
Shakespeare. Le
Un
côté
peu ça.
Shakespeare surtout.
C'est vrai que moi aussi, j'ai beaucoup peur quand la communication du Sky a commencé. Personnellement, j'avais peur que l'ambiance de Versus 13 ait totalement disparu. Et finalement, là, avoir revu cette ambiance très dramatique et tout, ça m'a vraiment fait plaisir. De ce point de vue-là, mais c'était pas assez. Enfin, voilà quoi.
On en parlera un petit peu de la différence versus 13 FF15, donc ça fait pas mal parler les gens.
Ah oui.
Sinon, cet ATR, c'était également l'annonce officielle que le jeu sortirait en 2016. Donc c'était vraiment pour le.
C'était pas la TR qui. C'était pas la
Disons que
TR qui avait annoncé.
peu de temps après la TR, justement, il y a eu tous les retours sur Internet.
Voilà,
Et
c'en est
les
pas
équipes
là.
marketing ont, en
Ils
tout
sont encore
cas,
au lieu dessus.
l'équipe de développement a justement dû travailler en urgence. Et lors d'une interview que Tabata a donnée à l'un des médias, dont j'ai oublié le nom, je suis plus certain, je crois que c'est IGN, mais
Famitsu, je.
Famitsu, oui,
Famitsu.
a justement lâché l'information pour que le buzz autour du titre soit un peu plus positif.
D'accord.
C'était simplement pour calmer. Disons que l'annonce n'a pas été faite officiellement à ce moment-là, c'était faite à la PAX. Mais il a précisé que, en tout cas c'était assez clair, hein, qu'il serait déçu si le jeu ne sortait pas en 2016. Donc à ce niveau-là, effectivement, ça ne faisait plus aucun doute qu'on pouvait l'attendre pour l'an prochain.
Concrètement,
Même
10 ans pile
s'il ne
poil.
comptait pas le donner, cette date, il ne comptait pas la donner dès la Gamescom. C'était pas prévu, c'était pas dans le programme.
D'accord, bah merci pour les précisions, mais
Bah,
voilà.
juste, je voulais rajouter en
Ouais, je
dernier
t'en
que,
prie.
y avait le président Yusuke Matsuda qui avait parlé justement avant la Gamescom que la date de sortie était déjà décidée, que la sortie était de plus très lointaine et qu'ils allaient bientôt parler justement, ils allaient justement parler de la date de sortie. Quelques semaines après la Gamescom, on se disait tous que ça allait être justement le moment de dévoiler la date de sortie. Je pense que ça a aussi joué sur la déception.
En fait, il parle de manière très très maladroite. C'est assez étrange dans leur façon de communiquer sur des choses aussi importantes. Parce que la date de sortie, ils nous avaient promis qu'elle allait être assez proche pour finalement. Désolé, mais elle est très éloignée. Hein.
Ouais, et puis on voit qu'ils prennent vraiment des pincettes sur ce jeu, qu'ils n'osent pas trop parler, pas trop en dire, ils sont un petit peu sur la retenue, parce qu'ils ont vraiment peur que ça passe mal, quoi.
Bah, il y a l'impression que toute l'équipe du jeu, même tout Square Enix, c'est un malaise autour d'FF15 et ils ne savent pas quoi
Ah,
faire.
ils ont du mal, ils ont du mal.
Bah, ils ont peur quoi. Enfin, après FF13, FF15 est leur seul jeu où ils peuvent montrer leur talent.
Oui,
Enfin,
c'est sûr.
revenir en force, je pense.
Oublie pas FF14, hein.
J'oublie pas FF14. Après, je ne l'ai pas fait, donc je ne peux pas forcément en parler. Mais c'est vrai
FF15.
qu'il m'a vraiment intéressé récemment.
Et disons que je pense aussi que les branches marketing européennes, notamment les branches allemandes, qui étaient en charge de promotionner FF15, puisqu'ils savaient qu'ils avaient une grosse exclue avec FF15, ont un peu travaillé dans le doute, dans le flou de ce qui serait vraiment annoncé, et que ça a participé justement à tout le buzz qui s'est créé autour du jeu, avec le pressentiment d'un salon immense et d'un FF15 comme on ne l'avait jamais vu. Et que les fans ont été déçus parce qu'ils se sont sentis un peu trahis entre ce qu'on leur promettait sur le papier et ce que Tabata a bien voulu leur offrir lors du salon. Et même si finalement, quand on recoupe toutes les informations, c'est-à-dire qu'effectivement, au-delà de l'ATR, si on regarde toutes les conférences qui ont été données avec tous les artworks et qu'on lit attentivement toutes les interviews, dont celle qu'on a faite avec Jérémy de Final Fantasy World, Nicolas pour Finaland et moi-même pour FF Dream, Quand on regarde toutes les interviews qui ont été faites, Tabata a lâché beaucoup, beaucoup d'informations. Et je crois que c'est la première fois qu'il a parlé si clairement du projet, qu'il a parlé justement de sa vision du jeu. Et ça n'a pas été une Gamescom pour rien, même si pour le grand public, ça reste un événement un peu raté pour le jeu. Mais au final, je pense que c'est la première fois que Tabata a pu s'exprimer, a pu exprimer clairement ses ambitions sur le projet et qu'on a pu avoir des informations concrètes sur la manière dont les équipes travaillaient, pourquoi nous n'avions plus de bande-annonce extraordinaire alors qu'on était habitué à voir des choses. On est vraiment là actuellement, le jeu est en plein développement et en full development. Et l'équipe travaille sur tous les éléments du jeu en même temps et n'est plus concentrée sur la création de trailers hollywoodiens avec des effets qui pètent partout, comme on a pu voir à l'E3 2013, alors qu'il s'agissait que d'un prototype dont il restera pas grand-chose finalement dans le jeu.
Et je trouve que Tabata, sa décision, il a pas tort en tout cas dans ses propos. C'est vrai que c'est mieux de se concentrer dans le jeu et de montrer quelque chose de concret, complété, que de montrer des prototypes et être déçu à la fin.
Oui, il évite les erreurs de grands studios récemment, quoi.
Les erreurs de Nomura principalement.
Oui, ouais.
Et c'est vrai qu'il a cette
Là, je
fâcheuse
pensais à autre
tendance à
chose.
présenter des trailers. Avec du prototype comme dernièrement le trailer de KH3 à l'E3 là c'était on avait du gameplay mais le menu bougeait pas donc je me demande si c'était pas aussi un prototype.
Je crois que dans les anciens thrillers de Kingdom Hearts 2, c'était aussi comme ça, ou de Kingdom Hearts 3D, les premiers thrillers, c'était du gameplay, mais sans vraiment menu qui bouge. C'est juste, voilà. Voilà, c'est juste un prototype, ouais, c'est vrai. Mais ça reste toujours impressionnant, personnellement, le thriller de Kingdom Hearts 3 était incroyable, je trouvais.
Ah oui, non, je suis d'accord aussi. Nomura, il a un talent pour faire de très bons trailers. Je pense que
Ah,
tous les
bien
jeux
sûr.
dirigés par Nomura, quand on voit les trailers, on nous en met plein la vue. Mais quid du jeu final? Enfin, bon.
Nomura a une qualité dans, justement, c'est vrai, dans la mise en scène de ses trailers que n'a pas Hajime Tabata. Tabata ne sait pas aussi bien faire les trailers que Nomura, c'est une certitude. Je crois que Nomura vraiment a signé son ultime trailer avec le 3 2013 pour le 15, mais il a tapé très très fort. Et ce sera compliqué justement de faire aussi bien ou de faire aussi marquant. Mais aujourd'hui, je crois que l'essentiel, c'est qu'on ait justement du concret, de l'authentique. Tabata, à présent, se contente, avec des gros guillemets, de nous proposer des phases de gameplay in-game, mais c'est tout aussi bien. On voit le jeu dans ce qu'il a de plus authentique, dans ce qu'il a vraiment à nous proposer. Et je crois que après 9 ans d'attente, Square Enix peut plus se permettre de miser sur du vent, de faire du prototype sur des choses qui n'existent pas vraiment. Et je préfère autant en patienter pour avoir du vrai gameplay. Bon, il suffit de voir le TGS 2014, hein, qui est un trailer Tabata, donc, qui lui-même est un peu factice. Quand on regarde justement le gameplay, la patte artistique, il n'y a pas grand-chose de commun avec ce qu'on a pu voir dans Doomsday, par exemple.
Après, il y a eu ensuite, après le trailer du TGS, on a eu de la Jump Festa, qui mettait la barre un peu plus au-dessus, je trouve, en tout cas, au niveau. Après, je pense que la musique aide grandement, en fait, au
Oui,
trailer de la Jump
oui,
Festa.
oui.
Mais
C'est comme du Hans Zimmer, mais n'importe la vidéo, ça passe.
Ah, c'est orchestral, c'est magnifique.
Ah, c'est Yoko Shimomura, bon, c'est un
Ah,
peu.
et oui.
Du très très bon travail, très bonne composition.
C'est vrai
Et.
que. C'est vrai qu'en parlant du thriller de du Tokyo Game Show, il était meilleur que le thriller de la Gamescom, mais pas tant que ça, on a juste vu un personnage faire 3 pas et c'est fini, quoi.
On a vu Luna se lever de sa chaise et voilà.
Et Noctis faire 3 pas, donc c'est personnellement beaucoup trop faible, c'est ça, la
Ah,
mise en scène
Luna,
est pas
on
assez
l'attendait un
impressionnante.
peu. Luna l'attendait un peu au tournant, donc c'était agréable de l'avoir enfin en mouvement. Donc déjà, c'était déjà pas mal.
Suite à la Gamescom, justement, il y a eu la PAX qui s'est déroulée à peine 3 semaines plus tard, donc il y a eu un laps de temps extrêmement court. Où justement c'était la terre de tous les risques, c'est-à-dire que si la terre était à nouveau décevant, je pense que ça aurait pu compromettre le destin des ATR ou que Square Enix y aurait réfléchi à deux fois. Et on a eu vraiment un ATR assez exceptionnel, sans doute l'un des meilleurs que Tabata a fait. On a vraiment senti la générosité, c'était vraiment le maître mot de l'ATR. Il y avait des informations très concrètes. Il n'abordait que des points dont il pouvait apporter des éléments de réponse. Et on a eu justement du gameplay avec la voiture.
Ah ouais, exact.
Et le pire, et le ce qui était bien, c'est que tout était tourné sur PS4 et je trouvais ça très beau.
Oui.
Donc là, je me fais beaucoup moins de soucis maintenant pour le côté technique du jeu. Après, la TR en tout cas de la PAX ça a bien rattrapé celle de la Gamescom.
Il y a eu une vraie volonté justement de réagir rapidement,
Exactement. Une
de ne pas
réaction
laisser
incroyable.
le doute s'insinuer. Et je crois que l'idée de proposer un ATR avant le TGS, c'était vraiment la meilleure idée qu'ils ont eue, dans le sens où le TGS repartait. Le TGS pouvait se dérouler sans avoir besoin de revenir sur la Gamescom, sans avoir besoin de s'excuser à nouveau, parce que c'est très japonais de s'excuser, Et ça a permis au TGS d'avoir un ATR qui était très propre, mais qui était également très très riche.
Exactement, ils ont vraiment eu la volonté de se rattraper après la Gamescom, donc c'est tout à fait
Et
louable de leur part hein, de faire ça.
bah, surtout en un très court laps de temps, ils ont
Ouais.
réussi justement. Parce que ça se trouve, on aurait eu sans tous les retours de la Gamescom, on aurait peut-être eu un matériel assez similaire à la Gamescom. Et je pense qu'en tout cas la communauté a réagi, mais pour justement secouer l'équipe pour qu'elle reparte de l'avant.
C'est un électrochoc à mon avis.
Ah non,
Donc
mais
on...
si
Ouais, je
continue
t'en prie.
si continue dans cette voie, personnellement les ATR sont alors un vrai potentiel parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à voir l'utilité. Enfin, personnellement, les premiers ATR étaient assez durs pour moi à suivre, mais finalement là, j'ai trouvé qu'il y avait du contenu, des visuels, c'était assez impressionnant. Et même à l'ATR de Tokyo Game Show, il y avait des choses vraiment intéressantes. On a eu du scénario, et vraiment beaucoup de scénarios, quoi. Ça fait un moment qu'on n'a pas entendu.
Justement, on va en parler un petit peu de Tokyo Game Show. Qu'est-ce qu'ils ont dévoilé là-bas dans leur ATR? Tu peux en dire un petit peu plus, Monsieur Cloud, par exemple?
Ah,
Qu'est-ce que tu as
oui,
vu?
oui. Alors, de ce que je m'en souviens, c'est vrai que ça fait un moment. Alors, l'ATR de Final Fantasy XV, on a eu surtout beaucoup de. Alors, déjà, on a eu un trailer où on a vu les chocobos. Ensuite, on a pu voir. On a eu Chocobo avec le thème réarrangé de Yoko Shimomura, qui est assez impressionnant et graphiquement, techniquement, c'est vraiment, vraiment pas mal. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Ça m'avait vraiment, vraiment donné envie de jouer avec un Chocobo. Ça faisait longtemps, quoi. Ensuite, on a vu le mini-jeu que Tabata en a souvent parlé, la pêche,
Ouais.
qui est un mini-jeu, tout simplement. Enfin, il n'y avait pas forcément. C'était assez sympathique. C'était pas très très utile, mais
Ouais, c'est de la pêche, quoi.
c'est de la pêche. Voilà. En fait, là, il devrait faire un simulateur de pêche, Tabata. Et.
La pêche, elle avait été teasée d'ailleurs, pour l'anecdote, la première fois au Max Linder, lors de la
Oui, c'est
première vidéo
vrai.
de gameplay de 12K. Et il
Je m'en
avait
souviens,
teasé, à
effectivement.
cet endroit-ci, vous pourrez pêcher, mais on n'avait
Oui,
plus vraiment entendu parler.
dans la vidéo, on voyait les héros marcher, enfin, faire une petite promenade.
Quand je joue à 12K, j'essaye toujours de pêcher, mais ça ne fonctionne toujours pas.
Alors, la vidéo de Chocobo, c'était pas sur PS4, mais sur PC. Donc,
Sur PC? Ah,
ouais,
d'accord.
c'était sur PC. Donc, sur PS4, ce sera pas aussi beau.
Ah.
Bon, allez.
Oula.
Désolé, j'ai détruit tes
Oui,
espoirs.
c'est en cours
Quasiment.
d'optimisation, mais
Bon.
il aspire au même rendu, mais à mon avis, ce sera
Quasiment, ça.
effectivement un peu moins
Ça
beau.
devrait pas être très très différent. Enfin, quand on voit, il n'y a pas forcément de grosse différence entre un PC et un PS4. Enfin, moi je trouve. Enfin, ça dépend.
Ah, tu
Mais.
risques
Tu n'as pas
de.
été au Max Linder, jeune homme.
Ah si, j'étais au Max Linder. Ah si.
Ah.
Ah,
Ah
tu risques de
si,
te faire taper par les PC
si.
Master Race. Hein.
Oui. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous.
Non, parce
Non,
que.
mais enfin.
Après, je sais pas si tu as vu la différence de Sky au Max Linder et de Sky PS4, mais il y a quand même une grosse différence au niveau
Oui,
graphisme.
il y a une grosse différence. Mais après, il n'avait pas dit comme quoi le moteur graphique était plus développé durant la présentation au Max Linder et que la démo était faite avec une version assez antérieure.
Oui, alors Luminous Engine, alors la démo qu'on a, elle est tournée sur 1.4, je crois.
Non, 1,5.
1.5? Et voilà. Et la version finale, elle sera 2.0.
Bah, ça se rapprochera un peu plus. Mais c'est vrai qu'il y avait, c'est vrai qu'il y a eu une grosse différence. C'est vrai, effectivement. Ensuite, après, comme information, on a eu des. Après, on a eu beaucoup de concept arts et Tabata a commenté autour de plusieurs personnages, autour du roi Régis, qui lui a expliqué son changement de design assez prématuré. Ensuite, il a parlé de Luna Freya, la jeune blonde que l'on voit dans les trailers de Final Fantasy XV, et de son importance dans le scénario, enfin de sa mission, de son objectif et de qui elle est justement.
Bah, elle a
C'est
tué
un
Stella.
oracle.
Elle a
Elle a
tué
tué
Stella.
Stella.
Faut... Voilà.
Métaphoriquement, elle a tué.
Voilà. Là. Ensuite, on a eu. Ensuite, il a brièvement parlé de l'assistante de Stella, appelée Gentiana, ou Gentiana, je sais pas. Je connais pas la bonne prononciation. C'était un personnage qu'on avait vu. Enfin, on avait rapidement vu sa tête à l'E3 2013, mais là, on l'a revu dans l'artwork qui a été présenté durant
C'était la
quelques
brune aux
minutes.
yeux verts dans le trailer.
La brune aux ovaires, exactement.
Avec les peaux
Après,
carrées.
Tabata a parlé de la situation du monde de Final Fantasy XV, des problèmes entre les pays, entre l'Empire Niflheim et le royaume du roi Régis, le royaume Lichis. Et après ces explications sur le scénario, Tabata revient un peu plus sur les parties techniques du jeu, en parlant de la pêche, en parlant des DLC qui seraient apparemment nombreux à venir, ensuite des magies qui seraient présentes dans le jeu. Et je crois avoir tout dit, si quelqu'un peut me rappeler.
Il y a juste eu un plus, le trailer Dying 2.0, qui est une
Oui,
version remaniée, voilà, de la première version avec des scènes en plus, mais
effectivement.
globalement plus court, mais mieux rythmé, oui.
Oui, légèrement mieux rythmé.
Bah pour une fois, c'était un ATR assez axé sur le scénario et sur les personnages.
C'était assez intéressant à voir.
Ouais, c'est aussi ce qu'on attend du jeu. C'est un scénario qui se prétend mature et sombre et très prenant, donc on attendait d'en savoir plus. Donc là, moi, ça m'a plutôt rassuré de voir ces personnages plus détaillés et ce monde plus détaillé aussi. Ça promet un bel univers, je pense. On pense quoi, Sky Pirate, de cette TGS?
Oui, c'est un TGS qui était assez attendu parce que le TGS, un ATR très attendu parce que le TGS est comme un événement assez scruté.
Ouais.
Symboliquement, c'était les 1 an du retour de FF15 sur le devant de la scène et les 1 an de la communication menée par Tabata. Parce que c'est qu'en 2000, en septembre 2014 que le jeu est revenu sur le devant de la scène avec Tabata aux manettes. En 1 an, il y a quand même eu beaucoup de progrès de fait au niveau de l'ATR, c'est beaucoup mieux rythmé, on a beaucoup plus de concret, beaucoup de blabla toujours, mais accompagné de concept art justement. On a pu mieux cerner les enjeux politiques du jeu, les personnalités des protagonistes, leur rôle dans l'histoire. Luna est un personnage qui a un peu plus d'aura aujourd'hui. Elle est beaucoup plus charismatique. Tabata la disait déterminée, et c'est vrai que dans le trailer, on voit une image d'elle qui est un peu plus intéressante, qui se rapproche justement un petit peu de l'image qu'on avait de Stella, qui était une femme forte, déterminée, qui prenait les armes. D'ailleurs, Tabata s'est un peu avancée, hein, au gré des interviews, effectivement, elle a confirmé qu'il y aura un moment dans le jeu où elle va se battre, où les personnages vont la rejoindre pour se battre, où elle sera, dans ce cas, un personnage invité. Ça a permis vraiment de la réhabiliter et de lui faire une vraie place, parce qu'au TGS, elle arrivait comme un cheveu sur la soupe, où la première impression, ça a été de savoir si Stella n'avait pas été redesignée. Et puis Régis, ils ont expliqué justement son redesign, qui s'explique pour des raisons scénaristiques, hein, et puis dans son énergie vitale pour protéger sa patrie, d'où son vieillissement prématuré.
Je trouve ça vraiment intéressant comme principe.
Et ça, vraiment, on a le sentiment d'un jeu assez sombre, avec un scénario assez dramatique, avec des enjeux intéressants, et on sort enfin de la période road trip et très très légère qu'on a eu ces derniers mois, qui était à des années-lumière de toute la communication de Versus 13.
Ça peut
D'ailleurs,
pas
en
dire.
parlant de Régis, vous préférez le design d'avant ou maintenant?
Moi, personnellement, j'ai une préférence pour le design d'avant. Le côté mafieux, c'était très très réel. Et c'était justement le but de ce Final Fantasy. De proposer quelque chose, enfin une fantasy basée sur le réel, quoi. Donc j'ai une préférence pour l'ancien design.
De mon côté, par rapport à Regis, je suis encore partagé, j'ai besoin d'en voir davantage. Mais je pense que Tabata avait aussi besoin de s'approprier les personnages en leur donnant une nouvelle apparence et que ça lui a sans doute permis de faire court avec le projet. Et disons que moi, le côté mafieux me rappelait beaucoup trop FF7, c'était du Nomura tout craché. Et je pense que là, on a quelque chose de beaucoup plus varié et de beaucoup plus humain. On a un personnage beaucoup plus humain et ça colle à l'idée que s'en fait Tabata d'un jeu avec des liens et où le rapport père-fils a une grosse importance.
N'empêche, tu dis qu'ils ont perdu beaucoup d'argent avec tous les cinématiques à refaire.
Oh oui, bah oui, c'est clair que. En revanche, le problème, c'est dans la crédibilité, c'est-à-dire qu'en matière de crédibilité, on a du mal à savoir si c'est des changements récents ou pas, parce qu'à la Jump Festa, donc il y a à peine 9 mois, Regis avait toujours son design que l'on connaissait. Et ça se demandait si le changement est récent ou si c'est. Je serais étonné tout de même qu'ils aient intégré sciemment en décembre un morceau qui était à ce point ancien, qui datait de 2013 et même bien avant, 2011 même.
Ouais, est-ce que c'est pas un peu maladroit aussi leur manière de faire la transition versus 13 FF15, notamment sur Stella, on n'a pas trop compris pourquoi elle avait disparu ni comment. On a l'impression qu'ils ont un peu de mal à faire la transition entre les deux et de surtout de montrer que versus 13 n'est pas FF15 finalement, c'est l'histoire ancienne quoi.
Il y a eu un. Je pense qu'il y a eu une vraie crainte de la réaction du public. C'est pour ça
Ouais.
qu'ils auraient pu, dès le TGS 2014, mettre 4 sur table, retour de Tabata, enfin arrivée de Tabata, et puis exprimer clairement qui était Luna. Parce que pendant plusieurs mois, il y a eu un flou qui persistait sur la présence de Stella. Il y a eu
Exact.
une annonce ultra solennelle lors d'un ATR où il a précisé enfin. Qu'elle ne serait plus là et que FF15 n'était plus Versus. Je pense qu'il y aura des choses qu'on ne saura jamais hein, sur ce projet, des décisions qui ont été prises qui vont nous échapper, qui resteront très secrètes et qui sont, à mon avis, très liées au personnage de Nomura.
C'est vrai qu'il y a eu la coupure avec Nomura aussi qui est partie et ça a bousculé pas mal de choses.
Ça m'a fait personnellement plus peur qu'autre chose. Je sais pas du
Ouais.
tout ce que ça va donner. J'aurais limite, j'attendrais bien un director's cut avec que la vision de Nomura, quoi. C'est pour voir ce que le jeu aurait donné. Moi personnellement, je trouve ça assez triste. J'aurais préféré la vision de Nomura que la vision de Tabata. Même si c'est vrai qu'il essaie de donner quelque chose d'humain et tout. Mais après, c'est là justement, en fait, FF15 n'est pas FF versus 13. Et donc finalement, on se dit qu'il y a 10 ans de développement, mais non. FF15 a été annoncé qu'en 2013, donc finalement il est assez récent.
C'est ça, le développement est vraiment plus récent. 2009, je crois, vraiment, FF15 qui a vraiment démarré.
Alors concrètement, c'était Versus 13 2006-2009 pré-prod,
Voilà.
vraiment à l'état très conceptuel. 2009-2011, ils ont commencé à travailler très concrètement sur le moteur du jeu et ils commençaient à travailler sur le Luminous avec les effets de lumière. 2011-2012, c'est une période qui est très très floue pour le projet où il y a des discussions en interne et où ils décident de le transformer en un épisode canonique. 2012-2013, c'est une époque où ils fabriquent le prototype qui sera montré à l'E3 2013, justement. Il y a quelques mois de flottement entre le trailer de l'E3 et le full development. Et je pense qu'il y a un FF15-1 et le FF15 qu'on connaît. À mon sens, il y a trois projets. Il y a Versus, le FF15 qu'on a vu à l'E3 2013,
Ouais.
qui reprenait beaucoup de Versus, qui était une version next-gen de FF Versus, et le véritable FF15 auquel on jouera l'an prochain, qui est un projet chapeauté par Tabata et qui a vu son scénario nettoyé, corrigé, avec des personnages supprimés, rajoutés.
Qui sera très différent de Versus du coup.
Qui sera très différent de Versus, même s'ils ont essayé de conserver des éléments, le projet n'est plus le même. Voilà.
Le bouquin Alchimania, il va plus faire 300 pages, hein, il va faire 1000 pages.
Ah,
Ça va être violent.
il
tu
vaut mieux.
m'étonnes. Ça va être un dictionnaire, le truc.
Et
Mais
au mieux qu'il
justement,
ce sera en japonais, on va rien comprendre.
je pense qu'on sera déçus, hein, je pense, à ce niveau-là. Je pense qu'il va y avoir un secret de polichinelle derrière les coulisses du projet et qu'on n'aura pas grand-chose antérieur à l'époque Tabata.
Je pense que ouais, ce sera censuré entre guillemets et on ne saura que à partir de Tabata.
Évidemment, tout ce qu'on saura, c'est ce qu'on sait depuis le TGS 2014. Tout a oublié, en fait, avant.
Tout ce qui s'est passé avant, ça n'existe plus.
Ça n'existe
Après,
plus,
est-ce que
c'est pour le
c'est.
plaisir.
Après, est-ce que c'est un mal? Non, parce que des fois, vaut mieux ne pas savoir la vérité.
Ah bah, y a des fans qui sont plus attachés à Versus 13 qu'à FF15, hein, c'est la vérité.
Ouais,
Ouais. Ouais.
Mais
c'est
en même
sûr.
temps, à quoi sont-ils attachés, au fond? Ils sont attachés à une fantasmatique,
Ah,
à
à des
l'image qui se
images, ouais.
faisait d'un jeu. Voilà, ils sont attachés à des images fortes, à des trailers forts, à une mise en scène impressionnante,
C'est
à des
ça, c'est ça.
musiques. Ils sont attachés à une imagerie, mais ils ne sont pas attachés à un projet. Quand je lis des gens sur Internet ou qui viennent sur les forums et qui pleurent Stella, mais que pleurent-ils au fond? Ils pleurent une scène où Stella est face à Noctis en plein quartier japonais. Ils pleurent un moment où elle est devant un tableau, mais ils pleurent pas un personnage. Ils connaissaient rien de ça. Concrètement, on ne savait rien d'elle.
C'est tout à fait ça.
C'est pas du concret en fait, c'est
Oui,
ça.
FF Versus 13, c'est pas du tout le contraire. Après, donc moi, personnellement, j'étais peut-être plus attaché qu'à FF Versus 13, mais de ce que tu as dit, des trois versions qu'il y avait de FF15, je serais alors plus attaché du premier FF15. En fait, je suis attaché surtout à la vision de Nomura.
Au
C'est comme
début du
si.
projet.
Là, c'est le début du projet. C'est vraiment la vision de Nomura, sa mise en scène, sa façon de voir le jeu. C'est ça que je voulais voir, justement. Justement, Nomura, directeur d'un Final Fantasy, il s'était jamais vu. Il a jamais été directeur. Character design, il a bossé légèrement sur le scénario, mais l'équipe de Kingdom Hearts derrière un Final Fantasy, c'était vraiment impressionnant. Et finalement, toute une grosse partie de l'équipe a disparu. Ils ont été remplacés, si je m'en souviens bien.
Disons qu'effectivement, à l'origine, Versus, c'était les équipes de Cash et de Advent Children qui concevaient un Final Fantasy. Donc c'était sur le papier le casting idéal. C'était le rêve absolu.
C'est comme pour Silent Hills.
Oui, bah c'est ça. C'était
C'est comme pour Silent Hills.
le casting parfait avec un trailer parfait, un Nomura qui te sert
C'est
tous les
ça.
2 ans, un trailer splendide, qui te fait une interview par an dans Famitsu et qui te fait des promesses. Exceptionnel, qui te promet un open world, qui te promet un airship, qui te promet monts et merveilles, et qui au final, quand tu vois le pauvre Tabata, bah, il te dit que ce n'était qu'un prototype. Nomura te promettait une Stella héroïne comme on n'en a jamais vu, et puis Tabata te dit que finalement, il n'y avait pas grand-chose concernant Stella et qu'ils n'ont pas su quoi en faire. Donc il y avait vraiment tout un monde entre ce que Nomura promettait et ce qui était vraiment concrétisé.
Je
Et
sais
je
pas
crois que les
si.
gens vont devoir les fans
Oui, c'est affreux.
nostalgiques vont devoir se le rentrer dans la tête et se
Oui,
dire
bien sûr.
que aujourd'hui je vois toujours beaucoup de monde effectivement relire inlassablement toutes les interviews de Nomura en disant elle avait promis ça, est-ce que vous pensez que ça y est toujours? Mais il faut vraiment l'oublier, hein.
Ils ont du mal à passer à autre chose, hein. Carrément.
Mais après, je sais pas si vous vous souvenez, il me semble que c'était dans un Famitsu, Nomura, il avait donné une interview en 2009 ou en 2010, et il disait qu'il était prêt à donner une date de sortie pour Versus 13.
Mais ça
Super.
montre bien le personnage, hein, ça montre bien à
Bah,
quel point elle est dans l'effet d'annonce.
après, je sais pas si vous souvenez quand même du trailer du Tokyo Game Show de 2011, le jeu, j'avais l'impression qu'il était quand même assez développé pour un jeu de PlayStation 3 quand même. Il y a
Alors,
pas de...
attention, il n'y
c'était
a
pas le
pas
Tokyo
eu
Game Show.
trailer au Tokyo Game Show, hein. J'ai pleuré toutes larmes de mon corps, c'était en janvier ou février à l'occasion d'un événement Square Enix.
Ah, autant pour moi alors. Mais en tout cas, en 2011, il y a eu un
Faut le croire.
trailer. Je m'en souviens,
Oui.
en 2011, il y a eu un trailer vraiment incroyable avec du vrai gameplay. Ça ressemblait beaucoup à du Kingdom Hearts, c'était fluide, c'était rapide, il y avait une mise en scène et le jeu pouvait sortir prochainement. Il avait tout pour sortir.
Mais
Sur le
est-ce que c'était pas un
papier.
prototype?
Sur le papier.
Il
C'était
était
un
trop ambitieux,
prototype.
Nomura aussi, il était trop ambitieux. Il était
Est-ce
encore
que
loin de
c'était pas un
ce qu'il voulait faire.
prototype?
Mais Tabata, il l'a dit clairement, c'était un prototype, c'était une version qui était finalisée à hauteur de 20%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 20% d'un jeu. C'est pas grand chose. C'est un trailer de plus de 6 minutes qui effectivement laissait à penser que tout était bouclé. Il y avait une tonne d'environnement, il y avait du gameplay, il y avait à boire et à manger dans le trailer. Mais au final, on apprend, enfin, il l'a dit récemment hein, d'ailleurs, hein, que un média allemand justement que Versus 13, c'était 20% de développement, pas davantage, au moment où il est devenu FF15. Je pense que si Versus 13 était sur le point d'être finalisé, il n'aurait jamais pris le risque de créer FF15. Il l'aurait sorti et il se serait pas permis de mettre à la poubelle un jeu quasiment fini qui aurait coûté à Bizzleworks et à tout le monde des millions et des millions.
Ouais, c'est une triste histoire tout ça.
Combien FF15 doit se vendre pour être rentable, quoi? Tu te dis,
Va être énorme.
ça va être, faut que ce soit un chiffre énorme.
Disons que là, on voit le bout du, enfin, on voit le bout du tunnel dans le sens où là, ils ont annoncé donc qu'en mars prochain, ils ont fait l'annonce d'annonce que nous aurions la date de sortie définitive, que nous aurions en plus de la date de sortie des informations exceptionnelles sur le jeu, dont des choses dont on ne soupçonne pas l'existence.
Ouais, il y a eu la rumeur d'un film.
Oui.
Donc, qui a fait une apparition. En fait, c'était un vieil article de juin qui a refait son apparition il y a quelques semaines, justement parce que Tabata avait parlé de ça. Et ce serait un film qui est dirigé par Takeshi Nozue, donc de Visual Works, qui serait, alors si je me trompe pas, qui s'appellerait enfin The King's Glaive.
C'est ça, qui serait une préquelle en fait au jeu.
Donc,
Bon,
ça se trouve, c'est bien ça.
je tiens quand même, enfin, c'est important de signaler que l'auteur de ce prétendu leak aurait précisé que la mère de Nokis s'appellerait Stella, enfin des choses assez.
Oula!
Donc c'est
Complètement
une
conscient.
information. En tout cas, la personne qui a fait ce leak n'a jamais donné une information qui s'est vérifiée. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'il y aurait une information d'importance. Tout est possible, hein, dans le sens où je pense que FF15 brassera bien au-delà de son propre univers, enfin, en
Faire une
tout cas,
annonce.
et que Tabata commence à tiger des choses assez claires lors du TGS, où il expliquait vouloir exploiter l'enfance des protagonistes, et qu'il ne le pourrait pas le faire comme il l'entend dans le jeu, donc qu'il y aurait d'autres moyens de le faire, donc ça peut être des livres, ça peut être un film, ça peut être, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, mais... Je pense que 15 fera date et qu'ils ont des projets très très importants de l'univers.
Tout à fait. Ils ont prévu d'ailleurs un événement spécial en mars, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Où ils vont parler, vont faire une grosse annonce, ils vont donner la date officielle du jeu, la date finale de la sortie du jeu, qui sera la
Oui.
sortie mondiale d'ailleurs.
Oui, sortie mondiale pour le 15. Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux. Vu l'aura du jeu, je crois que ce sera le premier FF. Enfin, offline, hein, j'entends. Avec la trilogie 13, ils avaient réduit considérablement les délais d'attente, mais j'étais quand même de plusieurs mois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça n'a plus beaucoup de sens de fonctionner ainsi. Bon, on s'en rend compte avec les derniers titres, hein, genre Drac Heroes ou Star Ocean 5. Ces titres qui auront une publication japonaise puis occidentale, mais pour des triple A comme FF15, je crois que Square Enix peut plus se permettre de publier à plusieurs mois d'intervalle et ça modifie leur manière de travailler avec les équipes de localisation et ça va surtout les obliger à fixer des deadlines beaucoup plus clairs pour que toutes les équipes puissent travailler en même temps sur les traductions.
On fait des paris pour la date de sortie?
Allez.
Moi, je le vois arriver entre août et octobre.
Bah
Pareil. Moi, j'aurais dit vers octobre aussi.
moi,
Septembre
j'aurais
octobre.
plutôt j'aurais
Septembre-octobre.
dit septembre. Moi, j'aurais dit septembre.
Ouais, septembre-octobre, moi, je
Ça
pense.
laisserait 6 mois entre l'annonce et la date, c'est pas improbable. Ouais.
Moi, j'aurais dit octobre plutôt. Octobre.
Octobre maximum, parce que pour profiter de l'aura de fin d'année, il ne faut pas sortir un titre après octobre.
C'est ça.
Et au niveau du rythme des ATR, il va diminuer parce qu'on ne devrait pas en avoir un autre avant fin d'année, début d'année prochaine. C'est la preuve que l'équipe travaille à 100% et n'a plus le temps de produire du contenu pour nous faire plaisir. Et que quand ils vont revenir, eh bien, ce sera pour nous montrer le visage, bah, définitif du jeu.
Et en mars, on aura enfin le grand événement.
Bon, je pense qu'on va prendre plein la tête, hein, en mars, hein, ça va être assez
Ah ouais, non
exceptionnel.
mais entre décembre et mars, ça va être fou. Ça va être fou, fou, fou.
En tout cas, on a vraiment hâte d'en voir plus et surtout d'arriver à avoir le jeu entre nos mains et vraiment voir ce que ça vaut, parce que ça va rentrer très longtemps et ça devient vraiment un rêve.
Je crois que je vais être un peu triste quand il sortira.
Ah oui, c'est sûr que c'est une
Mais
aventure qui s'arrête.
que vais-je attendre?
Ah, exactement.
FF16.
FF16. Ah, je ne sais pas si je vais me laisser
Y aura moins
séduire après
d'engouement.
avoir souffert 10 ans là.
Il y
Je suis
aura moins d'engouement,
vacciné.
peut-être. Exactement.
Ou alors un spin-off sur Gladiolus.
Ah, là, j'achète, évidemment.
Moi, je sais déjà ce que j'attends, donc c'est pas la peine de le dire, c'est FF7 le remake. Donc...
Oui, non, mais...
le fameux.
2016, FF15, 2017, même s'il sort pas en 2017, ce sera l'année de communication du remake, c'est sûr.
Ah oui.
Et Kingdom Hearts 3?
Oui, c'est vrai.
Et Near New Project?
On peut dire que Square Enix a quand même pas mal de choses pour les prochaines années, ça va être pas mal. Hein.
Mais 2016 va être extraordinaire.
Ouais. Et on l'oublie peut-être, mais il y a bientôt un nouveau Dragon Quest canonique.
Ouais, bah, il a été annoncé. Hein,
ouais, voilà, il a été annoncé. Hein.
Plutôt début 2017, visiblement. De ce que j'ai pu lire, c'était 2016 à l'origine, mais il vise plutôt pour la fin d'année fiscale, donc avant mars 2017.
Peut-être.
On reviendra sur toutes les prochaines annonces de 2016 dans un prochain podcast, sûrement, qui fera l'étalage de tout du planning de Square Enix, qui est vraiment énorme pour les prochaines années. On a de quoi faire, franchement, pour les fans, on a vraiment de quoi voir arriver, de quoi s'amuser. Donc c'est une belle époque hein, pour les fans de Square Enix, je pense. On va bien s'y plaire.
Ils reviennent en force après un moment, après plusieurs années où ils étaient assez mous, quoi.
Une génération un peu ratée.
La génération PS3 était totalement ratée. Enfin, amusée.
On peut passer à côté, donc ça, c'est bien de se relancer sur cette génération-là. C'est vraiment très difficile.
Non, ça fait un an qu'ils sont vraiment, vraiment ambitieux et qu'on revoit le grand Square Enix qu'on n'avait pas revu depuis 2006. Hein. Enfin, à mes yeux, ça faisait une petite décennie qu'on ne les avait pas vus aussi ambitieux avec des projets aussi importants et aussi proche de leur public, je crois qu'on ne les avait jamais vus aussi interactifs, aussi proactifs également.
Je trouve que c'est un des studios qui est le plus proche des joueurs. Personnellement, entre les forums qui sont faits, les ATR, les live reports, c'est ça qu'on appelle pour FF14, il y a pas mal de contenu pour les joueurs, enfin pour tenir au courant les joueurs par rapport à d'autres studios, quoi.
Ça communique très très bien, c'est sûr.
Après, ça communique bien, mais est-ce que c'est pas trop? Parce que il me semble que Jérémy, en tout cas à l'interview de la Gamescom, il avait dit que peut-être révéler les coulisses du développement, ça tuait un peu la magie.
Pas trop en dire, c'est sûr. Faut pas trop gâcher la surprise non plus. Parce qu'à l'époque, on en avait des FF qu'on connaissait pas, on découvrait tout en jouant, et là, c'est vrai qu'on a un petit peu trop d'infos des fois. Mais bon,
Depuis FF13, on en découvre beaucoup en fait. Je trouve la communication de FF13.
C'est la génération aujourd'hui, c'est Internet, ça va très très vite. Hein.
Oui.
C'est inévitable, on peut dire.
Tu verras, en mars, on aura le boss final de FF13.
J'espère pas. D'ailleurs, ils ont annoncé un boss plus fort que Sephiroth, hein, j'ai hâte de voir ça.
Ah, oui, franchement.
Attends, si Sephiroth détruit des planètes, et qu'est-ce qu'il peut faire?
Non, ils n'avaient pas dit plus charismatique que Sephiroth.
Plus charismatique,
Plus charismatique.
Ah, moi, je crois pas trop, hein. Désolé. Mais...
Ouais, c'est sûr.
Pour moi, Caius est plus charismatique que Sephiroth.
Caius.
Non, mais.
Caius, il est charismatique.
Je t'aime, Nicolas, tu as bien raison.
En fait, pour moi, Sephiroth, c'est un mec, c'est un méchant qui a un problème de personnalité et d'identité, quoi, c'est tout.
Il a besoin d'une maison psychiatrique, c'est tout ce dont
Exactement.
Il a besoin. Un bon
anis,
un bon Lexomil et.
Ah ben, vous êtes fatigués, les gars, vous dites n'importe quoi.
Mais non.
Bon, en tout cas, on va clôturer ce podcast. On a bien fait le tour des FF15. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre la suite. Il y a un ATR qui arrive en décembre. On en saura plus. On en reparlera d'ici là, bien sûr, sans finalement sur FF Dream, sur Star Wars Sky Pirates.
Oui, décembre ou janvier. Hein. Attends,
ouais, voilà,
ils ont quand même précisé que la fin d'année n'était pas certaine.
Voilà, c'est ça. En tout cas, merci les gars d'avoir participé. Merci pour toutes vos analyses très très pointues et votre connaissance en Final Fantasy. C'était vraiment très agréable. Merci Fat Chocobo pour ta présence encore une fois.
Merci à vous.
Merci Monsieur Cloud pour ta première apparition. Ça a été très très bon, bravo.
Ah, merci beaucoup. J'ai beaucoup stressé, mais ça va.
Non, t'as été parfait d'ailleurs. Monsieur Cloud, vous pouvez le retrouver sur Finaland en tant que newsmaker. Vous verrez souvent son nom sur la première page. Donc, n'hésitez pas à l'encourager, hein.
Je lui file toutes mes news, en fait, j'ai plus le temps de news. Enfin, c'est un peu mon bizutage.
On lui file le travail qu'on veut pas faire, en fait.
Si tu veux venir travailler pour FF Dream, y a pas de problème.
Non.
Reste heureux, tranquille.
Bon, je vous le laisse, entendu.
Et donc, Sky Pirate de FF Dream, qui nous a fait l'honneur d'être, de participer à ce podcast, le premier invité sur un podcast, une heure à deux, là, c'est le, tout premier, donc il m'augure. Merci beaucoup d'être venu, Skypiras.
C'était gentil de m'avoir invité. Avant de vous laisser, j'ai une petite information à vous donner.
Ouais, on t'écoute.
Qui peut intéresser vos lecteurs. Il y a la Paris Games Week qui va se tenir donc à la fin du mois d'octobre, comme vous le savez. Square Enix il sera largement représenté. Et j'ai ouï dire qu'en date du jeudi 29 octobre, Square Enix prévoit de jolies annonces. Donc si vous êtes du côté de Paris, ça peut être une bonne idée de vous y rendre.
Ouh là là,
le jeudi 29 octobre.
Ça donne envie.
Mais
tout
qu'est-ce
ça.
Qu'est-ce que c'est?
En plus en France, on va pas rater ça. N'hésitez pas si vous êtes près de Paris à passer à la Paris Games Week d'ailleurs. Vous pourrez nous rencontrer, vous pourrez voir la team Final Fantasy, la team FF Dream, vous pourrez avoir plein d'infos sur plein de jeux Square Enix. C'est vraiment un rendez-vous à pas rater. Et donc une grosse annonce qui arrive pour le 29. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis, merci pour votre fidélité. On espère vous retrouver très très bientôt pour un prochain podcast. Merci les gars.
Merci à vous.
Allez. À plus tard.
À plus tard.
À bientôt. Ciao ciao.